J'avais l'intention de supprimer les derniers monologues et d'aller tout de suite à la réponse de l'inconnu. Mais je vous dirais parce que ça ne suscitait pas, il me semblait que ça ne suscitait pas suffisamment de questions pour légitimer tout le temps qu'on passait à lire. Mais il se trouve que justement pour celui-ci, le savant, quelqu'un qui n'est pas ici d'ailleurs, a posé deux questions qui me paraissent intéressantes. Alors, je vous lirai le savant aujourd'hui et la semaine prochaine, nous prendrons directement l'inconnu. Contrairement à plusieurs d'entre vous, je ne me suis pas lancé dans la vie avec le but d'améliorer le sort de mes semblables. C'est la connaissance qui m'a tiré, non l'action. Et c'était la connaissance sous son aspect moderne, la science. Je ne voyais rien de plus beau que de soulever un coin du voile qui nous cache les secrets de la nature, de comprendre mieux quelques-uns de ses ressorts cachés. Sans doute acceptais-je inconsciemment le postulat que tout accroissement de connaissances impliquer un accroissement de pouvoir et que de toute nouvelle maîtrise de la nature devait, tôt ou tard, résulter une amélioration de la condition de l'homme, à la fois de sa condition matérielle et de sa condition morale. Pour moi, comme pour tous les penseurs dont les racines plongent dans le siècle dernier, le siècle de la fondation scientifique, l'ignorance était le premier de nos maux, sinon le seul. Celui qui retient l'humanité dans son essor vers la perfection. Nous admettions sans discussion la perfectibilité indéfinie du genre humain. Le progrès pouvait être plus ou moins rapide, il n'en était pas moins assuré. Du moment que nous en étions arrivés où nous en sommes, c'est que nous pouvions aller plus loin. Et pour nous, connaître davantage, c'était automatiquement savoir davantage, devenir plus sage, plus juste, en un mot, devenir meilleur. Il y a un autre postulat que nous admettions aussi implicitement. C'est qu'il nous est possible de connaître l'univers tel qu'il est réellement, de saisir objectivement ses lois. Cela paraissait tellement évident que la question ne se posait pas. L'univers et moi, nous existons tous deux, l'un ayant pour fonction de connaître l'autre. Sans doute je fais partie de l'univers. Mais dans le processus de connaissance, je m'en détache, je le considère objectivement, j'admets que ce que j'appelle les lois de la nature existent indépendamment de moi, de mon esprit, qu'elles existent en soi et qu'elles seront les mêmes pour tout autre esprit capable de les percevoir. Animé par cet idéal de connaissance pure, je me mis au travail. Je choisis les sciences physiques et comme domaine particulier celui de l'atome. La radioactivité où Becquerel et Curie avaient tracé une voie royale. C'était l'époque où la radioactivité spontanée commençait à céder la place à la radioactivité artificielle, où le rêve des alchimistes se changeait en réalité. Je travaillais avec les grands physiciens qui ont découvert la fission de l'uranium et j'assistais à la naissance de la bombe atomique. Année de labeur ardu, opiniâtre, exclusif. C'est à cette époque que je conçus l'idée qui devait me conduire à ma première découverte, celle qui nous permet aujourd'hui d'obtenir directement de l'énergie électrique à partir de l'énergie intra-atomique, de l'énergie nucléaire. Comme vous le savez, cette découverte entraîna un bouleversement profond des conditions économiques du monde entier, car elle signifiait l'énergie à bas prix, à la portée de tous. Si cette découverte eut un si grand retentissement, c'est qu'elle libérait l'homme de la malédiction du travail, de l'obligation de gagner son pain à la sueur de son front. Je réalisais donc là le rêve de mon adolescence, une grande découverte. Et je m'aperçus en même temps de son importance pour l'humanité, à qui j'avais apporté, sans le chercher spécialement, un bienfait considérable. J'aurais donc eu lieu d'être pleinement satisfait. Si je l'ai été, c'est peu de temps. Car peu après, je puis vous le dire, puisque nous sommes à deux doigts de la mort et qu'elle ensevelira probablement mon secret. Peu après, dis-je, je découvris le moyen de libérer l'énergie atomique, non seulement de l'uranium, du thorium ou de quelques autres métaux rares, mais de la plupart des métaux communs, le cuivre et l'aluminium entre autres. Mais alors, se posa à moi un problème formidable, sous l'angoisse duquel je défaillis. Devais-je rendre publique ma découverte? À ce jour, personne, en dehors de moi, ne connaît ce secret. Vous connaissez tous l'histoire de la bombe atomique? Vous savez que celle-ci a fait place à un engin infiniment plus destructeur encore, la bombe à hydrogène. Vous savez aussi, comme moi, que l'humanité chancelle sous le poids des découvertes qui placent entre ses mains une puissance destructrice inégalée. Mais si je révélais maintenant ma nouvelle découverte, si je dévoilais mon secret, je placerais une puissance diabolique entre les mains du premier venu, et cela sans contrôle, sans restriction. L'uranium, le thorium ont été aisément monopolisés par les gouvernements en raison de leur rareté relative d'abord et surtout de la difficulté de leur mise en œuvre dans les piles atomiques. Mais vous imaginez ce qui arriverait si tout criminel, tout détraqué, tout fanatique pouvait, dans un petit laboratoire de fortune, confectionner un engin capable de faire sauter Paris, Londres ou New York, ne serait-ce pas le coup de grâce asséné à l'humanité? Moi aussi, j'ai chancelé sous le poids de ma découverte. J'ai hésité longtemps et je n'ai pu jusqu'à présent parvenir à aucune décision qui satisfasse à la fois ma raison et mon cœur. Ainsi donc, le premier postulat avec lequel je suis parti, jeune savant, à la recherche des secrets de la nature, s'est effrité. Si tout accroissement de connaissances confère une puissance accrue, il ne s'ensuit pas du tout que l'humanité s'en trouve automatiquement améliorée. Le progrès scientifique n'implique pas le progrès moral. À changer la nature humaine, la connaissance scientifique et intellectuelle est impuissante. Et pourtant, cela devient urgent. Si les convoitises et les passions humaines restent ce qu'elles sont aujourd'hui, à peu de choses près ce qu'elles étaient à l'âge de pierre, l'humanité est vouée à disparaître. Nous sommes arrivés à un point où elle dispose d'une puissance telle qu'à moins d'un changement moral radical et rapide, elle sera l'instrument de sa propre destruction. Que reste-t-il du deuxième postulat de mon adolescence? Puis-je au moins avoir la joie de la connaissance pure? Être certain que j'ai compris quelque chose au rouage caché de la nature? Puis-je espérer jouir de la compréhension des vraies lois qui la gouvernent? Hélas, je crains bien que là aussi mon idéal ait fait faillite. Nous, hommes de science, avons depuis longtemps abandonné l'idée qu'une théorie devait être vraie ou fausse. Nous disons qu'elle est commode et qu'elle s'adapte aux faits et les explique. Quant à savoir si elle est vraie, c'est-à-dire si elle est conforme à la réalité, c'est une autre affaire. Et peut-être la question n'a-t-elle pas de sens. Il existe sans doute, il existe sûrement, d'autres théories qui expliquent les mêmes faits aussi bien et qui par conséquent sont aussi valables que la première. Toutes ces théories, que sont-elles au fond? Des symboles, pas autre chose. Elles sont utiles sans doute, car elles nous permettent de prévoir. Elles nous disent comment les choses se passent, mais non leur raison d'être, leur pourquoi. Elles ne nous introduisent pas dans la réalité. On a constamment l'impression de tourner autour de la réalité et de la vérité, de l'aborder sous différents angles, sous différents points de vue, sans jamais réussir à la découvrir, sans jamais qu'on puisse la saisir, ni qu'elle jaillisse et se révèle. Et puis, d'un autre côté, dans toutes les mesures que nous faisons et que nous pensions nous révéler quelque chose de l'univers extérieur, nous intervenons nous-mêmes. Par le fait de notre mesure, nous dérangeons, si peu que ce soit, les phénomènes extérieurs et l'aspect du monde sans trop modifier. Aussi, la connaissance que nous donnent ces mesures n'est-elle pas certaine? Ce que nous pouvons en déduire, c'est un état probable du monde, pas une certitude. Pour les phénomènes à notre échelle, l'incertitude est négligeable, mais il n'en est pas de même pour l'infiniment petit, le monde de l'atome. Et il s'agit ici d'une impuissance essentielle, d'un obstacle que nous ne pouvons jamais espérer vaincre. Il est dû à la nature des choses, non à l'imperfection de nos moyens d'investigation. Si bien que nous ne réussirons jamais à rejeter les verres de couleur à travers lesquels nous observons l'univers. Toutes mes mesures, toutes mes théories, me contiennent, moi, l'esprit humain, tout autant qu'elles contiennent l'univers. Elles sont subjectives, tout autant qu'objectives. Et peut-être, dans le fond, n'ont-elles d'existence que dans mon esprit? Ayant découvert sur la grève de l'infini une empreinte, j'ai entrepris de reconstituer l'être qui a laissé sur le sable cette trace. J'y ai enfin réussi. Et il se trouve que cet être, c'est moi-même. Voilà où j'en suis, où nous en sommes. Et je ne vois pas d'issue. Après tout, que je n'ai sur le monde que des probabilités, pas de certitude. Laisse peut-être une lueur d'espoir. C'est que le sort de l'humanité ne soit pas définitivement scellé. Vous ne voyez pas clair? On peut rallumer.
Le savant parle de deux postulats avec lesquels il s'est engagé à la recherche des secrets de la nature et qui se seraient effrités peu à peu. Pour moi, dit-il, l'ignorance était le premier de nos maux, sinon le seul. N'en est-il pas vraiment ainsi?
C'est-à-dire, la question est ceci, posée pleinement, est-ce que l'ignorance n'est pas le premier et peut-être même le seul mal de l'humanité? la science, c'est-à-dire ce qui considère le monde au point de vue le plus matériel, l'a déclaré. Et un des plus grands maîtres spirituels, un des plus grands révélateurs et esprits qui ait cherché la solution des maux de l'humanité sur le plan extrême opposé, a dit la même chose. Je parle du Bouddha. Et tous les deux ont à la fois raison et tort, dans le sens qu'ils ne voient que chacun qu'un côté de la question. Il est certain qu'on peut toujours réduire la difficulté à un certain aspect et que ça rend le problème plus facile à résoudre. Quoique il ne soit pas sûr que la solution soit absolument effective. Mais en tout cas, si nous parlons d'ignorance, si nous regardons le problème sous l'angle de l'ignorance, que c'est parce que l'homme n'a pas la connaissance qu'il ne peut pas être sauvé. Ça paraît évident. Mais de quelle connaissance s'agit-il? Le savant vous dira, étudiez les lois de la nature, sachez tout ce qu'elle peut vous enseigner, et elle vous donnera la connaissance qui vous permettra de maîtriser la vie et de vous d'en devenir le propriétaire au lieu d'être possédé par elle. Mais voilà, d'après ce que nous venons de lire, qu'à mesure qu'il étudie et qu'il cherche, sincèrement, et de plus en plus profondément, il s'aperçoit que il y a quelque chose qui lui échappe. Parce que il arrive tout naturellement à la limite du monde matériel, et là, il est en face d'un précipice. Il ne peut plus faire de recherche dans ce qui est au-delà parce que les mêmes méthodes ne suffisent pas. Mais si nous prenons la question par l'autre bout, nous verrons que l'ignorance dont le Bouddha parlait n'était pas du tout celle qui consistait à savoir que si on absorbe un poison, on est empoisonné. Ou que si on garde sa tête sous l'eau sans respirer, on est sûr d'être noyé. Ce n'est même pas de savoir comment la nature construit les atomes. Mais pour lui, l'ignorance consistait à croire que le monde était réel. Et que la vie pouvait être bonne si on avait la chance de vivre dans des conditions favorables. Venir au monde, c'était venir. C'était naître à l'ignorance. C'était le résultat, selon lui, d'un désir de vivre, et que ce désir de vivre était en lui-même l'ignorance, c'est vrai? Et que si on abolissait le désir, tout naturellement, au bout d'un certain temps, on abolirait la vie, puisqu'elle en est le résultat. La vie, le monde, et toute cette apparence malsaine et néfaste. Alors pour lui, sortir de l'ignorance, c'était sortir de cette fausse conviction que le monde était quelque chose de réel, et surtout de ce désir de vivre qui était la stupidité suprême. Seulement, lui s'est trouvé devant un autre problème qui était au moins aussi sérieux, sinon encore plus que le problème du savant, c'est que son remède n'était bon qu'individuellement. Il ne pouvait s'appliquer à un nombre extrêmement restreint d'individus qui avaient déjà passé sous des expériences innombrables à travers des vies tout aussi innombrables pour atteindre le moment où ils étaient prêts à comprendre cette vérité et à se libérer du monde en se libérant du désir et à disparaître dans l'ignorance. Mais comment multiplier suffisamment ces conversions finales pour en arriver à ce que le monde disparaisse? Ça paraît impossible, puisque le processus est progressif et qu'il faut passer par tous les stades de la vie consciente jusqu'à ce qu'on arrive à l'état où on est prêt pour s'enfuir dans le nirvana. Et alors pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui arrive à tous ces pauvres gens? Pas seulement des gens, aussi des bêtes, aussi des plantes, à toute cette vie qui souffre et lutte et peine. Alors, même dépourvu de tout espoir, parce que au moins les savants vous disent nous allons vous trouver le moyen de vous rendre la vie plus confortable. Ils n'ont pas l'air d'avoir découvert ça très bien, parce que ce genre de confort complique la vie et ne la rend pas plus agréable, mais enfin, au moins, il vous donne une lueur d'espoir. Tandis que l'autre vous dit, attendez, attendez, quand votre tour viendra, vous passerez de l'autre côté. Mais en attendant, on n'est pas heureux. Alors, peut-être qu'on pourrait dire que cette façon d'aborder le problème n'est pas tout à fait suffisante. Parce que c'est une façon purement et exclusivement mentale, et qu'elle ne peut satisfaire que les gens qui ont une vie mentale, et ce n'est pas la majorité. C'est d'ailleurs ça qui a fait que toutes les religions se sont vulgarisées, même celles qui avaient au début quelque chose de très haut et de très vrai à donner. Elles ont été obligées de le réduire à la taille de la conscience humaine, parce que l'humanité souffre et que ce n'est pas avec des belles idées qu'on la gagne. Il faut autre chose. Ça, nous le verrons peut-être à la fin, quand nous en arriverons là. Pour le moment,
le deuxième postulat, c'est qu'il nous est possible de connaître l'univers tel qu'il est réellement, de saisir objectivement ses lois. L'espèce de régularité que nous constatons dans l'univers et que nous traduisons en ce que nous appelons loi de la nature a-t-elle une existence indépendante de nous, ou bien ces prétendues lois n'existent-elles que dans notre esprit? N'est-il pas possible de connaître l'univers dans sa réalité, tel qu'il est en lui-même, indépendamment de l'observateur ou du penseur?
Oui, il y a un moyen. C'est par identification. Mais évidemment, c'est un moyen qui échappe tout à fait au processus physique. Je pense que cette impuissance provient seulement du procédé employé, parce qu'on est resté dans une conscience tout à fait superficielle. Et le phénomène qui s'est produit la première fois se produit encore une seconde fois. Si vous poussez votre investigation assez loin, vous arrivez tout d'un coup à un moment où vos procédés physiques ne valent plus rien. Et au fond, on ne peut connaître que ce que l'on est. Alors, si vous voulez connaître l'univers, il faut devenir l'univers. Vous ne pouvez pas devenir l'univers physiquement, n'est-ce pas? Mais il y a peut-être un moyen de devenir l'univers, c'est dans la conscience. Si vous identifiez votre conscience à la conscience universelle, alors vous savez ce qu'il se passe. Mais c'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. C'est un fait absolu qu'on ne connaît que ce que l'on est. Et si l'on veut connaître quelque chose, il faut le devenir. Alors, n'est-ce pas, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est impossible, mais parce qu'ils restent dans un certain plan. Il est tout évident que si vous restez non pas seulement dans le plan matériel, mais aussi dans le plan mental, vous ne pouvez pas connaître l'univers, parce que le mental n'est pas universel. C'est seulement un moyen d'expression de l'univers. Et ce n'est que par une identification essentielle que vous pouvez alors savoir les choses, non pas du dehors au dedans, mais du dedans au dehors. Ce n'est pas impossible, c'est tout à fait possible. Cela a été fait. Mais ça ne peut pas se faire avec des instruments si perfectionnés qu'ils soient. Là, il faut encore faire intervenir quelque chose d'autre. D'autres régions, d'autres réalités que les réalités purement matérielles. Y compris le mental qui appartient à la vie physique, la vie terrestre. On peut tout savoir, mais il faut connaître le moyen. Et le moyen ne s'apprend pas dans des livres, ça ne peut pas s'écrire avec des chiffres. Ce n'est qu'en pratiquant. Et alors là, ça demande une abnégation, une consécration, une persévérance et une obstination encore beaucoup plus considérable que celle que les savants les plus sincères, les plus honnêtes, les plus désintéressés ont jamais montré. Mais je dois dire que la méthode de travail scientifique est une discipline merveilleuse. Et ce qui est curieux, c'est qu'aussi la méthode préconisée par le Bouddha pour se débarrasser des désirs et de l'illusion du monde est une des plus merveilleuses disciplines qu'on a jamais eues sur la Terre. Elles sont aux deux bouts. Elles sont toutes excellentes. Ceux qui suivent l'une ou qui suivent l'autre en toute sincérité se préparent vraiment pour le yoga. Il suffit d'un petit déclic quelque part qui leur permette de sortir de leur point de vue un peu trop étroit, d'un côté ou de l'autre, pour pouvoir entrer dans une intégralité qui les mènera, elle, vers la vérité et la maîtrise suprême. Je ne sais pas si l'ignorance est le plus grand obstacle sur le chemin de l'humanité. Nous avons dit que c'était un obstacle qui est presque exclusivement mental et que l'être humain est beaucoup plus complexe qu'un être mental, quoi qu'il soit suprêmement mental, puisque c'est sa nouvelle création dans le monde. Il représente la dernière possibilité de la nature. Et en ça, naturellement, sa vie mentale a pris une proportion formidable parce que il a la fierté d'être le seul être à l'avoir sur la terre. N'en fait pas toujours bon usage. Mais enfin, c'est comme ça. Mais ce n'est pas là qu'il trouvera la solution, il faut qu'il aille au-delà. Voilà. Maintenant, quelqu'un d'autre a une question? Non, personne? Tu as une question, toi?
Non. Depuis l'âge de Pierre jusqu'à notre âge, si nous voyons l'homme a fait seulement progrès dans le mental, c'est-à-dire dans le domaine scientifique, mais pourquoi pas aucun progrès dans le...
Tu crois ça, toi? Qui t'a dit ça? C'est lui qui l'a vu. Peut-être qu'il avait à préparer son mental d'abord. À l'âge de Pierre, son mental, c'était un peu rustique, hein. Il n'y avait pas grand-chose. Il fallait qu'il le développe avant de pouvoir le dépasser. Ça a pris longtemps, mais on est tout de même arrivé à quelque chose. Il est de toute évidence que, au point de vue purement mental, le mental physique, eh bien, on a fait du chemin depuis l'âge de Pierre. On dit que nous n'avons pas fait beaucoup de progrès parce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas beaucoup cultivé. parce que nous étions justement beaucoup trop occupés à jouer avec un nouvel instrument. Hein. C'est si intéressant d'avoir un nouveau jeu. Là. On jouait avec ça, on essayait tous les moyens de s'en servir. Point de vue pratique, c'était surtout des applications comme jeu. Hein. Même cette bombe atomique, c'est encore une façon de jouer. Elle est un peu macabre, mais enfin, c'est encore un jeu. Ce n'est pas avec une vision claire, définie, un plan, une organisation pour faire avancer le tout vers le but, le vrai but. C'est pas ça. C'était tout à fait, c'est encore comme des enfants dans une cour de récréation. On invente, on cherche, on joue, on trouve, on se bouscule, on se bat, on s'entend, on se querelle, on découvre, on détruit, on construit. Mais il y a un plan derrière. Il y a eu un plan, il y a encore un plan, il y a de plus en plus un plan. Et peut-être tout ça qui joue à la surface, malgré tout, ça mène vers quelque chose qui va se produire un jour. Peut-être que si on en parle maintenant et que nous y pensons tant à cette chose, c'est peut-être qu'il faut bien qu'à un moment donné ça se produise. Hein? Ça peut se produire lentement, par étapes, mais enfin il y a un moment où ça commence à se produire. Alors c'est peut-être qu'on est arrivé à ce moment-là. Mais enfin, il ne faut pas anticiper, nous en parlerons la prochaine fois. Voilà. C'est tout? Plus de questions? Rien? Tu n'as rien à dire, toi, ce soir? Non? Bon. Alors, au revoir, maintenant.